Bonjour, vous êtes bien sûr
Radio Vassivière.
À l'écoute de Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour les parents et les professionnels de l'enfance et de l'éducation, tous ceux qui ont envie de s'élever auprès des enfants, afin de les accompagner avec justesse et leur permettre de donner tout leur potentiel dans ce monde. C'est parti. Bonjour, bienvenue pour cette 38e émission de
Élève-toi
avec les enfants. Une émission de Émilie, ma maman.
Et oui, une émission de Émilie, sa maman. Une émission aujourd'hui plutôt pour les instits. Mais pas que. Ça vaut aussi si vous êtes en école à la maison, ça vaut aussi si vous êtes dans l'animation, vous occupez des enfants. Dans différents cadres, il y aura des choses intéressantes, et j'espère, pour tout le monde. J'ai mis sous l'émission, enfin là que vous pouvez retrouver sur Radio Vassivière, puisque tout ce que j'enregistre et qui passe le samedi à 15h est aussi disponible sur le site de Radio Vassivière. Vous allez à l'onglet émission Élève-toi avec les enfants, et là vous aurez beaucoup beaucoup d'émissions, pas toutes mais presque. Et dessous je mets des liens si besoin, et donc là il y a le lien vers mon ancien blog, oula très très vieux, et qui s'appelle gmilidée.blogspot.com, et il y a ce que j'avais écrit après avoir... 5 ans dans l'éducation nationale, dans une charmante petite école de la Creuse en multi-âge. Et j'avais voulu écrire à ce moment-là un témoignage de choses faciles que l'on peut mettre en place simplement dans sa classe pour faire évoluer l'ambiance et pour permettre à chacun d'y être le meilleur possible. Donc j'ai déjà fait 2 émissions comme ça, je crois que c'est la 3e, hein, la 37 et la 38. Et là, on est à la 39, ou je ne sais plus exactement. Mais c'est pas grave, je vais commencer par vous parler de la lecture. Alors là, en l'occurrence, c'était la lecture avec des enfants déjà lecteurs. Chaque jour, un enfant était inscrit pour lire une histoire à ses camarades. Ceci était discuté et choisi en conseil. Le lecteur choisissait un livre, le proposait à la classe, définissait une date avec le groupe, préparait sa lecture, lisait devant le groupe, puis écoutait les recommandations des autres, sur le ton, le volume de sa voix, la façon dont il faisait comprendre le contenu de sa lecture. Le groupe votait pour un niveau défini par un code couleur de la lecture effectuée en fonction de critères simples établis ensemble. Chacun pouvait mesurer ses progrès et se positionner par rapport au groupe pour évaluer les progrès restants à faire avant le collège. Le groupe n'hésitait pas à applaudir chaque prestation et à mettre en valeur les progrès. Ce fonctionnement a été élaboré en conseil. Je vous ai parlé des conseils des réunions la fois d'avant. Alors voilà, ça s'est passé à un moment comme ça, en effet. Il y a eu plein d'autres étapes avant, hein, où il y avait juste une feuille au mur avec des dates et chacun pouvait s'inscrire. Le jour où il était prêt à lire, sans soumettre son livre avant à la classe, mais je pense que c'est à force d'être déçu par certains livres ou des livres venaient. Après, hop, ils avaient dit, non, on passe par le conseil pour valider le livre que tu vas nous lire. Voilà. Pour qu'il y ait plus de chances que ça nous plaise. Et puis le petit débriefing dont je parle après, ça s'est installé au fur et à mesure, c'est parce qu'il y avait vraiment une ambiance de coopération dans la classe, d'entraide et vraiment pas de jugement ni de compétition, qu'à la fin de la lecture, les enfants pouvaient s'entendre dire des conseils, des recommandations. Et je crois qu'on avait ajouté, même à un moment, la phrase qui disait « Est-ce que tu acceptes les conseils ? Est-ce que tu veux des conseils pour progresser ?» Et l'enfant pouvait dire oui ou non. S'il se sentait pas, il pouvait aussi dire non, c'était pas le moment pour lui. Et le code couleur, oui, alors ça a été pas mal mis en place, ça a vu son intérêt, ses limites aussi. Mais en gros, ça allait du blanc, beige, jaune, orange, jusqu'au rouge, au marron, je ne sais plus exactement les couleurs comme ça. De plus en plus chaud. Et plus on montait, en tout cas c'était comme un escalier, quoi. Hein, plus on montait, plus on était bon lecteur. Ceux qui lisaient un livre ont resté captivés du début à la fin parce que tout était bon, l'intonation, le volume, la gestuelle... Là, ils étaient tout en haut. Et ceux pour qui on ne comprenait pas grand-chose au début, ils étaient tout en bas. Voici quelques anecdotes. Fabien ne savait pas lire, selon mes collègues, en entrant dans ma classe. Il s'est adonné régulièrement à l'exercice. Il a largement progressé et a été très ému. Quand la classe l'a longuement applaudi pour l'importance des progrès effectués en 2 ans. Et il est passé en 6e classique. Je me rappelle vraiment de ce moment-là, c'était très émouvant. Puisque cet enfant avait vraiment envie de nous lire des livres, mais alors il fallait s'accrocher, hein, parce que c'était dur, quoi. On ne comprenait pas grand-chose. Et un jour, il a lu un livre. Alors, il en prenait des pas longs, des pas durs. Et on a tout compris. Et là, vraiment, il y a eu un silence. Et après, les enfants, ils ont applaudi. Il était vraiment ému et ça avait vraiment marqué un tournant pour lui, en fait, dans les apprentissages. La bibliothèque se trouvait en accès libre dans la classe. Les emprunts devaient être notés, mais étaient libres. Même si un nombre non négligeable d'ouvrages ne sont pas revenus, j'étais seule dans l'école et ne pouvais tout gérer à moins de travailler plus de 50 heures par semaine. Je ne regrette pas ce fonctionnement. Les romans qui étaient obligatoires étaient mes romans pour enfants préférés. Alors c'est quoi roman obligatoire ? En fait, je donnais une liste par année, parce que j'avais 2 ou 3 années niveau dans ma classe. Il y avait une liste, par exemple, de 10 livres, il fallait en lire au moins 5 dans l'année. Et chaque roman était en plusieurs exemplaires, 2, 3, 4, 5. Donc les enfants pouvaient choisir, avec des copains, de lire le même livre en même temps, par exemple. Et ceux qui en avaient lu 10 y continuaient, bien sûr, hein, c'était accessible. Mais en tout cas, il y en avait 5 d'obligatoires parmi une liste donnée. Et dans les obligatoires, je mettais mes préférés. Hein. Il y avait pas mal de Roald Dahl, de Suzy Morgenstern, de Marie Desplechin, par exemple. Vincent, qui n'aimait pas lire, selon son père, en entrant dans ma classe, m'a dit un jour « Maîtresse, les livres que tu nous fais lire, on dirait que tu les aimes vraiment. Et du coup, ça me donne envie de les lire. » Il a terminé sa scolarité très gros lecteur. Ce n'est qu'un exemple, mais je n'ai pas le souvenir d'enfants qui soient ressortis n'aimant pas lire des romans. J'ai toujours gardé en tête que la lecture est un plaisir. Je ne leur demandais plus de répondre à des questionnaires, mais plutôt s'ils avaient aimé. Et s'ils en voulaient d'autres, du même thème ou sur le même auteur ou sur le même thème. Et je prévoyais aussi des petits quiz, des petits jeux, où ils pouvaient répondre sur les personnages, les lieux, ce qui se passait, un côté assez ludique. Mais je ne notais pas cela. Tout ça est arrivé pour moi parce que, en fait, ça n'a pas été facile pour moi l'apprentissage de la lecture. Déjà, j'ai appris à lire trop tôt, j'avais 5 ans et 9 mois. Je n'étais pas dans une famille de lecteurs, à part le télé 7 jours et dossier familial, je ne crois pas qu'il y avait grand-chose à lire. Et je n'ai eu aucun goût pour la lecture de romans avant d'avoir 15 ou 16 ans. Vraiment. J'ai dû lire 3 ou 4 romans avant 15 ou 16 ans. Ouais, vraiment. Donc, je n'avais pas envie de ça pour mes enfants, pour mes élèves, ni pour mes enfants d'ailleurs. Donc, j'ai trouvé un système. Après, j'ai eu le goût de lire et j'ai trouvé un système pour vraiment mettre un rapport de plaisir, de goût à la lecture et pas du tout d'un livre scolaire, quoi. Pas du tout lié à la scolarité, vraiment au plaisir de lire en lui-même. Aujourd'hui, ce que j'ajoute, ce sont les mythes, les contes et les légendes. Voilà. S'il y a des livres qui sont vraiment importants, à mon sens, ce sont ces livres-là parce qu'ils sont plein de sagesse. Ils sont initiatiques. Ils viennent nous dire des choses importantes sur la vie humaine, sur le monde. Et donc, quand moi je lis des histoires aux enfants, je choisis parmi les mythes, les contes et les légendes. Ça ne veut pas dire que dans la littérature pour jeunesse, il n'y a rien d'intéressant. Non, il y en a des intéressants. Mais voilà, le temps où je suis en lecture offerte, je préfère lire ces grands mythes, ces grands contes et ces légendes du monde entier. Notamment au niveau mythe, il y a ces livres de Muriel Zach qui sont vraiment très bien faits, les 100 épisodes sur la mythologie grecque. Maintenant, c'est très répandu, c'est connu. Ça commence par Hermès, puis Thésée, puis Ulysse, et puis après, je ne sais plus qui c'est, puisque je ne l'ai pas lu le 4e. Voilà le petit mot que je vais vous lire pour la lecture. Bon, maintenant, je vais vous parler couleurs. Alors, couleurs. Alors, j'ai une licence de sciences physiques. En ce moment, je suis prof de physique, d'ailleurs, tiens. Les couleurs, ce sont des fréquences, ce sont des longueurs d'onde. Et ça nous fait quelque chose. Ça nous fait quelque chose. Hein. On vit dans un monde en couleurs et ça a une influence sur nous. Imaginez, par exemple, que vous vivez dans un monde en noir et blanc. Allez, un petit peu de marron et de gris. Ça donne de la joie, ça ? Maintenant, imaginez que vous vivez dans un monde où tout est bleu ciel, rose, vert émeraude, jaune doré, un joli violet. Ah oui, ça fait plus envie. Hein. Ou sinon, c'est qu'il y a un petit problème à l'intérieur. Alors, les couleurs, c'est quoi le rapport avec les classes, avec ce que je raconte? Eh bien, déjà, il y a le stylo rouge, le fameux stylo rouge. Si on en finissait avec le stylo rouge, hein, ça vous évoque quoi, vous, le rouge? Le rouge, en premier, c'est quoi? C'est le sang, c'est la colère. Alors, je sais que ce ne sera pas ça pour tout le monde, mais il n'empêche que dans l'inconscient, c'est ça quand même. Donc, ce stylo rouge, et en plus, avec toutes ces années de tous ces profs qui ont mis des traces au rouge dans les cahiers, alors déjà, je pose la question, à quel moment est-ce bien opportun d'écrire dans le cahier des enfants? Est-ce qu'ils ont des cahiers où on n'écrit pas dedans? Voilà, déjà. Et après, cette couleur rouge, mettons du rose, mettons du violet, mettons du turquoise, je sais pas, changeons un petit peu tout ça. Abandonnons le stylo rouge. Vraiment, abandonnons le stylo rouge. Si seulement. Ensuite, il y a les habits. Hein, quand je suis professionnelle, alors pour tous les professionnels, même pour les parents, tout le monde, je passe ma journée auprès d'enfants. Alors maintenant aussi, pareil, fermez les yeux. Votre enfant là, vous avez envie, vous êtes dans la classe, vous êtes enfant, vous avez envie de voir quelqu'un habillé tout en noir? Tout en gris? Tout en marron? En noir et rouge, gris, marron? Ça vous fait envie là, de l'écouter, vous vous sentez bien? Ou maintenant quelqu'un qui a... un beau jaune, un beau bleu, un beau vert, un beau violet, un beau rose, un beau blanc, un bel ivoire. Le mélange de tout cela. Vous sentez la différence? Eh ben oui, il y a une responsabilité à ce niveau-là. Et je profite de faire cette émission pour le dire parce que c'est pas facile à dire, c'est pas facile que ce soit entendu, mais pourtant c'est réel et ça a un vrai impact sur les enfants. Abandonnons le noir, le marron, le gris et le rouge vif dans les classes. Laissons place à des couleurs qui apaisent et qui font du bien aux enfants. Celles que j'ai dites sont celles qui apaisent et qui font du bien aux enfants, vraiment. Du bleu ciel, du rose, du violet, du doré, vous allez voir. Ça leur fait vraiment du bien. Et oui, c'est physique, hein, tout ça. C'est pas juste le fruit du hasard. Et puis après, ben, y a la décoration de la classe. Alors des fois, ben, on a le choix parce que hop, c'est le moment où la mairie va repeindre et hop, on peut participer aux couleurs. Alors là, oublions les couleurs vives, hein. C'est pas le moment de mettre un orange vif, non. Un beau bleu, un beau vert pastel au mur, ça sera juste parfait. Avec des touches de rose, de violet, de rose, de jaune, comme je le disais. C'est vraiment important. Donc, mais si on peut pas refaire tout cela, eh bien on a toujours des petits moyens, des petits leviers d'action avec la décoration. Hein. Peut-être que c'est juste le rideau qu'on va pouvoir changer, peut-être juste une nappe sur la table, des choses qu'on va mettre au mur. En tout cas, ça fait partie du quotidien de l'enfant. C'est pas directement objectif la manière de quantifier à quel point ça l'influence, mais c'est bien réel. Voilà, c'était mon cri du cœur pour des jolies couleurs autour des enfants. Allez, ensuite, je vous donne un petit truc et astuce qui est simple, 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 simple. Moi, si j'arrive dans une classe en tant que remplaçante, c'est la première chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de leur dire, hop, voyez, je vous ai distribué, on le fait en maths avant, on coupe des beaux rectangles. Donc un petit rectangle, on va dire, allez, de 6 cm sur 8. Dessus, c'est écrit « carte, j'ai besoin d'aide ». L'enfant écrit son nom, il la décore, on la plastifie. Et grâce à ça, allez, je vous lis ce que j'avais écrit. « Chacun dispose d'une carte personnelle « j'ai besoin d'aide » indiquant son prénom. Il peut la donner à un camarade ou à moi. Celui qui reçoit n'est pas obligé d'accepter la demande, il peut aussi différer. Cette simple carte évite aux enfants de rester pendant de longues minutes le bras levé pour attendre que l'enseignant vienne l'aider. Il peut faire un autre travail pendant ce temps, il est rassuré car il sait que son tour viendra et il n'a pas mal au bras. Pour l'enseignant, il est plus commode d'aller voir ou d'appeler le nom de l'enfant figurant sur la carte suivante, plutôt que de choisir plus ou moins au hasard l'enfant qu'il va aller aider parmi la forêt de bras levés. Bon oui, ça c'est pour en finir avec les bras levés. Hein, vous savez, au bout d'un moment, on prend le bras, on met l'autre et tout, on sait jamais si on a été vu, et puis l'autre, il avait levé après moi, et puis non. Une carte, j'ai besoin d'aide. Voilà, je donne la carte à la maîtresse, ou aussi je donne la carte si on est en multi-âge, ou même pas en multi-âge, des fois, c'est aussi possible. Je suis en maths, par exemple, je sais qui est bon en maths, et ben je lui ai donné ma carte, j'ai besoin d'aide. Et l'enfant, bah, soit il continue de faire son travail parce que là, il n'est pas disponible, soit il dit, bon, ok, je fais une pause, et je viens t'aider. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une classe où il est possible de bouger. Il est possible de se lever pour aller donner sa carte. Oui, alors si vous vivez jusque-là dans des classes où il n'est pas possible de bouger, il faut demander la permission à chaque fois, et bien ça peut être un premier pas, cette carte peut-être. Et si vous avez peur des débordements, et bien ça s'appelle le lâcher prise, et puis mettre de la structure. Tout en permettant, ça me semble quand même important de pouvoir permettre ceci, c'est un minimum de responsabilité, d'autonomisation, hein, de juste pouvoir se lever pour aller apporter cette carte. Et puis franchement, c'est quand même beaucoup plus agréable, voilà, quand on a juste à prendre la carte suivante. Et puis voilà, on sait qui on vient aider, plutôt que regarder cette forêt de bras levés, comme je l'ai noté. Dans le même genre de choses, pour l'aide, dans mes classes, je mettais des jeux de société, aussi des fichiers ou des jeux de logique, comme les Smart Games. Et là, il peut être commode de mettre sur la couverture, sur la boîte, une petite étiquette. On peut écrire « à l'aide » ou « help » ou « je peux t'aider » avec le nom des enfants qu'on a reconnus, nous, en tant qu'adultes, capables d'aider avec ce jeu-là parce qu'ils le maîtrisent bien et qu'il est capable d'aider. Voilà. Donc, si en plan de travail, j'ai à faire des Smart Games et là, je bloque un peu ou j'ai jamais fait celui-là, j'ai la liste sur le dessus des enfants qui savent déjà le faire et je peux aller les voir, leur donner ma carte « j'ai besoin d'aide » pour qu'ils puissent m'aider. Voilà, voilà pour ces petits trucs et astuces qui sont... Ben simple quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Autre chose, bon, je sais que c'est quand même de plus en plus ancré, l'idée que l'enfant, il a besoin d'une structure, il a besoin d'être rassuré, et la sécurité vient aussi par le fait qu'il sache un petit peu à quoi s'attendre, et donc comment vont se dérouler les journées et les semaines. En fonctionnant avec des journées types et des semaines types, avec des rendez-vous. Alors c'est quoi ces rendez-vous sur la journée? Ça, chacun va voir ce qu'il a envie de mettre, je vous en donne quelques-uns. Un rendez-vous pour la lecture offerte, soit par l'enseignant, soit par quelqu'un d'autre. Le rendez-vous poème, où comme j'ai dit la dernière fois, on bloque un quart d'heure ou 10 minutes dans la journée et ceux qui sont inscrits passent pour dire leur poème ou jouer leur poème. La phrase du jour en orthographe, j'en ai parlé aussi dans l'émission précédente. Un temps de lecture silencieuse, par exemple après le repas. Un temps de présentation en fin de journée, donc ça peut être présenter un exposé, présenter une chorégraphie, présenter une peinture que l'on a terminée. Voilà quelque chose qu'on est content d'avoir fini et qu'on a envie de montrer aux autres. Un rendez-vous pour le chant. Une journée sans chantier, c'est quand même dommage, non? Un rendez-vous aussi pour l'écoute. L'écoute de musique, alors de préférence pour moi, je dirais, de musique classique et de musique du monde. Voilà, et sur la semaine après, il peut y avoir le jour des arts plastiques, le jour du sport, le jour des arts plus expressifs comme la musique, le théâtre, le jour de la sortie nature, que les enfants aussi soient repérés. Voilà, il y a un jour pour telle activité. Et puis après, entre tout ça, eh bien, il y a ce qui va se glisser, les différents moments, les différents projets. Et puis, la porte ouverte, bien sûr, à la spontanéité, à ce qui peut venir changer. C'est pas parce qu'on va avoir une habitude que tout doit être figé et coincé. C'est l'habitude qui va permettre de se sentir en sécurité, d'avancer sereinement, mais c'est pas pour ça que c'est bloqué. Il faut pas confondre la rigueur avec la rigidité. Allez, j'ai bien parlé, maintenant...
Musique, maintenant.
Nous allons écouter, oulala, alors là je ne vais pas très bien le dire sans doute, Concerto de Aranjuez Adagio de Joaquim Rodrigo. êtes toujours à l'écoute de...
Radio Vassivière.
Élève-toi.
Avec les enfants. Une émission de Émilie, ma maman.
Allez, on continue cette émission sur les pratiques de classe pour les instits, mais pas que. J'ai dit, ça peut aussi intéresser ceux qui sont en école à la maison ou qui travaillent avec les enfants. Je vais continuer. Tadadam. Maintenant, je vais vous parler des Jokers. Alors, Joker, c'est un livre de Suzy Morgenstern, franco-américaine. Et c'est un petit bijou ce livre. Je vous lis ce que j'avais écrit. Comme dans le livre de Suzy Morgenstern, Joker, chacun recevait un lot de Jokers qu'il pouvait utiliser dans l'année scolaire. Pour utiliser un de leurs Jokers, il fallait venir me le faire valider. Je gardais mon droit de veto sur le moment choisi. L'échange de jokers était autorisé, par contre, la perte était définitive. Exemple de joker. Venir à l'école déguisé. Faire une danse. Faire un bisou à la maîtresse. Ne pas faire ses devoirs. Aller dormir. Aller jouer à l'ordinateur. Aller lire. Aller prendre l'air pendant quelques minutes. Cela apportait de la fantaisie au quotidien. Reconnaissez la possibilité de ne pas être infaillible et invité à faire preuve d'imagination et à surprendre le groupe. Anecdote. David, arrivé en cours d'année suite à un déménagement, pas à l'aise dans ses baskets, joue son joker pour chanter une chanson. Les autres sont en lecture silencieuse. Il passe derrière le tableau et commence à chantonner timidement « Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blond de peau » de Nougaro, que nous avions appris ensemble. Certains me regardent, surpris que j'ai laissé chanter leurs camarades alors qu'ils étaient plongés dans leurs livres. Grognent un peu. Puis David monte le son. Et se lâche, complètement dans le volume et dans le ton. Peu à peu, d'autres l'accompagnent, j'en fais partie. Il termine, il sort de derrière le tableau et la classe entière l'applaudit. David, à ce moment précis, une lumière dans les yeux que nous n'avions pas vue depuis son arrivée. Il a surpris, il s'est lâché, quelque chose s'est débloqué chez lui. Il peut à présent entrer en contact avec nous et commencer à prendre sa place. Une autre anecdote. Un matin, j'ouvre la porte et je vois Léon me tendre son joker pour venir à l'école déguisé. Il avait son bonnet de bain, son tuba, son masque, son slip de bain sur le pantalon et les palmes aux pieds. Bonne humeur garantie pour tout le reste de la journée. Une autre anecdote aussi. Un enfant me donne son joker. Alors, ils aimaient bien chanter pendant que les autres étaient en silence en lecture. Monte sur la table et comme ça, interprète a cappella Place des grands hommes de Patrick Bruel que nous n'avions pas du tout vu ensemble du début à la fin. Voilà. Plein de petites anecdotes en fait assez chouettes avec ces jokers. Allez, il me reste quelques minutes avant de rendre l'antenne, comme on dit. Je vous passe un enregistrement d'une lecture que j'ai faite du merveilleux livre « Écoute » de Patty Whipler. Je vous en ai parlé dans les émissions plutôt de 2023. Et là, c'est la lecture de l'introduction au chapitre 12 « Dissoudre l'agressivité ». Écoute de Patty Whipler, chapitre 12 « Dissoudre l'agressivité ». Ce que tu as besoin de savoir. Nous avons presque tous du mal avec l'agressivité de nos enfants. Elle débarque dans nos vies sans crier gare et une fois qu'elle a pointé le bout de son nez, elle revient sans cesse. Que faire dans ces moments houleux? Tu as probablement déjà compris que les remèdes traditionnels ne fonctionnent pas. Raisonner l'enfant, le récompenser avec des bons points ou des étoiles. L'envoyer dans sa chambre, crier, mettre en place des conséquences logiques. Rien de tout cela ne freine très longtemps son agressivité. En fait, aucune de ces tactiques ne peut dissoudre le nœud d'émotions intenses qui commande le comportement d'une enfant. Quand elle peut réfléchir, elle aime ses amis, ses petits frères et ses petites sœurs. Quand elle se sent reliée à toi, elle peut te dire quand il l'énerve. Elle criera juste un peu, on accourra vers toi. Ou accourra vers toi, agacée, demandant ton aide. Mais quand les griffes de grandes émotions l'enserrent, son cerveau assiégé classe tes paroles, tes promesses, tes menaces dans la catégorie charabia. Il existe une autre façon de faire. L'agressivité est le signe d'une peur. Tu aideras ta fille bien plus facilement une fois que tu auras compris qu'elle t'agresse parce qu'elle a peur. Les enfants emmagasinent leur peur lors d'expériences diverses, comme une naissance difficile, un traitement médical, des tensions familiales, un changement brutal, le malheur des autres, l'absence d'un être aimé et plus encore. Pendant une situation qui la submerge, la peur s'installe dans ses souvenirs et y reste collée, à moins que quelqu'un ne parvienne à écouter ses pleurs et ses coups comme autant de manières d'évacuer son émotion. Une mémoire émotionnelle ne s'évanouit pas avec le temps. Des semaines, des mois ou des années plus tard, des circonstances inoffensives peuvent de nouveau déclencher ce souvenir. Un tremblement d'effroi la traverse alors qu'elle est en totale sécurité. Ses capacités de raisonnement s'éteignent, l'instinct de survie prend les commandes et elle peut attaquer le premier venu. Peu importe si le comportement agressif de l'enfant semble intentionnel, il est presque toujours hors de son contrôle.
Sa peur est au volant, son cœur se glace. Quand tu lui dis qu'elle fait mal à son petit frère, elle te répondra « Je m'en fiche ». Elle ne s'en fiche pas du tout, mais son naturel ouvert a fait place à un sentiment d'isolement, sentiment qui accompagne systématiquement la peur. En fait, qu'elle morde, tire, pousse, tape, ou ait n'importe quel autre comportement impulsif, tu peux penser à ces actes blessants, irrationnels, comme à autant d'alertes, ces signaux annoncent « J'ai peur à l'aide ». Ta fille a un bon fond. Elle préférerait tellement jouer et s'amuser plutôt que causer des difficultés avec les outils d'écoute. Tu lui tends la main et tu raffermis sa sensation de t'avoir toujours de son côté. Vous serez toutes les deux partenaires pour la libérer des tensions qui l'isolent. Tu interposeras une limite et ta compassion entre son agressivité et le monde. Elle te montrera l'émotion débridée dont elle a besoin de se débarrasser. Ensuite, enfin, elle se détendra.
Ah oui, j'avais enregistré chez moi et à la fin, il y a mon petit garçon qui débarque. Si ça vous intéresse ce livre, il est vraiment génial. J'ai enregistré tout le chapitre en 11 audios sur ma chaîne YouTube « Élève-toi » par Émilie Roudier. Vous pourrez tout retrouver à cet endroit-là. Allez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Envoyez-moi vos questions. J'aimerais bien faire une émission où je réponds à vos questions. En fait, j'aimerais bien faire que ça, répondre à vos questions. Ça serait vraiment super. Eh bien, vous me les envoyez à emilie.roudier23@gmail.com. Et puis voilà, je ferai ce que je peux pour y répondre. Et je ne suis pas obligée de vous citer, hein, vous inquiétez pas. Tout ça restera anonyme. Allez, à bientôt. Élève-toi
avec les enfants. Chaque samedi à 15h sur Radio Vassivière.